Chapitre 39. Quand il entendit frapper à sa porte, Campbell leva les yeux du texte qu'il lisait.
« Oui ?»
Rollet ouvrit le battant et entra.
« Messire Campbell, quelqu'un demande à vous voir. Un certain Inger, boucher de son état, dit-il. »
Très occupé, Dalton n'était pas d'humeur à discuter de problèmes d'intendance. Il avait assez de questions plus ou moins graves à résoudre pour ne pas s'ennuyer avec ça. L'assassinat de Claudine Winthrop avait mis en ébullition la cité et le domaine. Cette femme importante, connue et appréciée, n'était pas une victime comme les autres. Cela dit, quand on savait y faire, ce genre de situation ouvrait une foule de perspectives, et l'assistant du ministre était dans son élément. Au moment du meurtre, Stein tenait une conférence devant les directeurs de l'harmonie culturelle. Dalton avait minuté les choses ainsi pour que les soupçons ne se portent pas sur l'émissaire de l'ordre impérial. Quand on s'affichait avec une cape faite de scalps, même prélevée sur des champs de bataille, on risquait toujours d'être accusé d'une multitude d'indélicatesses. Deux gardes affirmaient avoir vu Claudine sortir de Fairfield pour regagner le domaine. Même après le coucher du soleil, il n'était pas rare que des gens s'aventurent ainsi sur une route très fréquentée et jusque-là tenue pour parfaitement sûre. Selon les mêmes gardes, deux jeunes Haken, un peu avant le meurtre, s'étaient réunis pour boire en cachette. Le lien étant facile à faire, tout le monde pensait que la pauvre Claudine avait été attaquée par ses voyous, une nouvelle preuve que la haine des Haken pour les Andériens ne s'éteindrait jamais. Désormais, tous les notables qui s'aventuraient la nuit hors de la cité bénéficiaient d'une escorte. Les bonnes âmes demandaient à corps et à cri que le ministre prenne des mesures. Abattu par la mort horrible de son épouse, Edwin Winthrop avait dû s'aliter. Mais sous ses couvertures, lui aussi demandait justice pour Claudine. Quelques jeunes Haken avaient fait sous les verrous un séjour brusquement écourté quand on avait découvert qu'il travaillait chez un fermier la nuit du meurtre. La veille, les clients d'une taverne, stimulés par le rhum, avaient lancé une grande chasse aux assassins roux. Plusieurs Haken, certains à peine sortis de l'adolescence, avaient été battus à mort sous les yeux de spectateurs enthousiastes. Dalton avait écrit des discours pour le ministre et décrété en son nom une série de mesures d'urgence qui lui seraient bien utiles par la suite. Dans ses allocutions, Bertrand avait saisi l'occasion de jeter l'opprobre sur tous ceux qui s'opposaient à sa nomination au poste de pontife. Avec leurs discours enflammés, affirmait-il, ces inconscients encourageaient le mépris de la justice et l'explosion de la violence. Ils prônaient en conséquence l'adoption de nouvelles lois contre les incitations à la subversion. Cette harangue, subtilement adressée au directeur de l'harmonie culturelle, avaient de bonnes chances de doucher un peu plus leurs ardeurs contestatrices. Devant les foules massées pour l'écouter, Bertrand avait promis de nouvelles mesures, sans les décrire, pour en finir avec l'insécurité. Les initiatives de ce type étaient toujours très vagues et débouchaient rarement sur des actions concrètes. Mais pour convaincre les citoyens que le ministre prenait les choses à bras-le-corps, les mots suffisaient amplement. L'essentiel dans cette affaire était le sentiment qu'on parvenait à instiller à la population. Car donner l'impression qu'on agissait était facile, peu fatigant, et n'exposait jamais au risque d'être démenti par la réalité. Bien entendu, pour financer cette grande campagne d'assainissement, il faudrait lever de nouveaux impôts. Une formule vraiment magique. Toute opposition à ces ponctions supplémentaires passerait pour un plaidoyer en faveur de la violence, et ses tenants seraient automatiquement identifiés aux barbares Haken de jadis. Avec ce tour de passe-passe, le ministre et Campbell renforçaient leur contrôle sur l'économie d'Andérite et leur pouvoir par la même occasion. Bertrand jouait avec enthousiasme son rôle de chef de guerre qui donnait des ordres, dénonçait le mal, rencontrait inlassablement des délégations de citoyens inquiets et les rassurait sans coup férir. Mais ce tumulte durerait peu. Dès que les gens auraient oublié le meurtre, il passerait à autre chose et il ne resterait plus que les nouvelles lois fort pratiques pour Bertrand et ses alliés. Ildemara ronronnait, et c'était le plus important aux yeux de Dalton.
« Rollet, dit-il, envoie ce boucher aux cuisines et conseille-lui de s'adresser à Drummond. Les commandes de viande sont de son ressort. »« Compris, messire. »
Rollet referma la porte et le silence retomba dans le bureau, à peine troublé par le bruit d'une douce pluie printanière. Si le ciel restait si coopératif, les récoltes seraient excellentes, et les paysans se plaindraient moins de devoir payer de nouveaux impôts. Dalton s'adossa à sa chaise et reprit sa lecture. L'auteur du rapport avait vu des guérisseurs entrer dans le palais du pontife. Il n'avait pas pu leur parler, mais il précisait qu'ils y avaient passé la nuit. Une nouvelle intéressante qu'il convenait de relativiser. Rien n'indiquait que le pontife était malade. Après tout, son domaine était presque aussi vaste que celui du ministère de la Civilisation, et il s'agissait seulement de sa résidence privée. Pour le travail, si ce mot avait un sens en ce qui le concernait, il disposait de locaux à part où il donnait également ses audiences. Au ministère, il arrivait fréquemment qu'un ou deux guérisseurs passent la nuit au chevet d'un malade, et ça ne voulait pas dire que Bertrand se portait mal. Les maris jaloux représentaient le plus grand danger pour sa santé, et ce n'était pas très inquiétant. Quand le galant était un homme de pouvoir, les cocus faisaient aisément profil bas. Dans ces conditions, un excès d'indignation pouvait vous attirer tellement d'ennuis. Dès que Bertrand aurait été nommé pontife, ce risque déjà minime serait réduit à zéro. Pour une femme, partager la couche du grand homme était un honneur et pratiquement une expérience mystique. On prétendait même que ces ébats-là se déroulaient sous l'œil approbateur du Créateur en personne. Aucun mari n'aurait hésité à pousser sa femme dans le lit du pontife s'il en manifestait le désir. En plus d'en retirer par la bande une aura de sainteté, l'époux complaisant pouvait escompter en tirer des bénéfices des plus concrets. Et quand l'heureux élu était assez jeune, ses parents aussi profitaient indirectement de la bénédiction du saint homme. Dalton passa au rapport suivant. L'épouse du pontife, signalait-il, ne s'était plus montrée en public depuis des jours, et elle s'était même fait excuser alors qu'elle devait visiter un orphelinat. Parce qu'elle était malade? Ou parce qu'elle ne quittait pas le chevet de son mari? Attendre la mort du vieil homme était aussi excitant que jouer les funambules sur une corde raide. Le cœur battait la chamade, et on avait vite le front inondé de sueur. Pour Dalton, ce jeu était le plus excitant qu'il connût, car le décès du vieux chef était un des rares événements sur lesquels il n'avait aucune prise. Avec la horde de gardes du corps qui veillait sur lui, prendre le risque de hâter son départ pour l'autre monde eût été inutilement dangereux. Surtout quand sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Dalton devait attendre et tout gérer afin d'être prêt quand l'occasion se présenterait. Il passa au message suivant sans grand intérêt. Un type qui se plaignait parce qu'une femme, selon lui, jetait des sorts pour qu'il soit affligé de la goutte. Ne reculant devant rien, le personnage avait publiquement demandé l'aide d'Hildemar à Chanebourg, connu pour sa bonté et la pureté de son cœur. Si elle consentait à coucher avec lui, affirmait-il, son contact chasserait sans nul doute les esprits malins. Dalton ne put s'empêcher de sourire en imaginant cette improbable union. En plus de n'avoir aucun goût en matière de femme, cet individu était fou allié. Il ajouta son nom à la liste des suspects que la garde devrait surveiller de près, puis soupira d'agacement. Dire qu'il devait perdre son temps avec des idiots si pareils. Alors qu'il passait au prochain rapport, on frappa de nouveau à sa porte.
« Quoi encore ?»
C'était Rollet, bien entendu.
« Messire Campbell, j'ai transmis votre réponse au boucher, mais il prétend qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'intendance. »
Le messager baissa le ton. « Il est question de... problème qui aurait pour cadre le domaine. Il veut vous en parler, mais si ça ne vous intéresse pas, il ira voir les directeurs de l'harmonie culturelle. »
Dalton ouvrit un tiroir et y rangea la pile de messages. Avant de se lever, il ferma plusieurs dossiers restés ouverts sur ses écritoires.
« Fais-le entrer !»
Du genre costaud, et plus vieux que Dalton d'une bonne dizaine d'années, Inger passa la porte et inclina humblement la tête.
« Merci de me recevoir, messire Campbell. »«
C'est tout à fait normal. Si vous voulez bien approcher... »
Inger se frotta les paumes sur son pantalon, sans doute parce qu'elles étaient moites, et inclina de nouveau la tête. « Pour un boucher, » pensa Dalton, « ce type était étonnamment propre sur lui. En fait, il ressemblait davantage à un marchand. Mais pour être devenu le fournisseur du domaine, il devait avoir une affaire importante et ne plus jamais mettre la main à la pâte.
« Prenez un siège, je vous en prie, maître Inger. »
Inger balaya la pièce du regard et ne put retenir un sifflement admiratif.
« Un marchand, certes, » corrigea Dalton, « mais de tout petit niveau. »«
Merci, messire Campbell, » dit le boucher.
Il tira la chaise plus près du bureau et s'assit.
« Appelez-moi Inger tout court, je vous en prie. J'en ai tellement l'habitude. »
Il eut un petit sourire.
« Mon vieux professeur est le seul qui m'ait jamais donné du maître Inger, toujours avant de me taper sur les doigts. En général, parce que je n'avais pas lu un texte la veille. » En calcul, j'étais bon, et il n'avait jamais besoin de me punir. J'adorais ça, et j'avais raison, parce que ça m'a rudement servi dans mon boulot.
Je vois ce que vous voulez dire, mon ami.
Inger jeta un coup d'œil aux étendards, puis il lança.
Mon affaire marche très bien, vous savez. Et le ministre est mon plus gros client. Savoir compter est important quand on dirige un commerce. J'ai de très bons employés, et tous maîtrisent le calcul, histoire de ne pas se faire escroquer lorsqu'ils livrent la marchandise.
« Eh bien, le domaine est satisfait de vos services, je peux vous l'assurer. Sans votre contribution, nos banquets ne seraient pas si réussis. À la qualité de vos viandes, rouges ou blanches, on voit que vous êtes un grand professionnel. »
Inger sourit.
« Merci, messire Campbell. Vos compliments me touchent. C'est vrai, je fais mon travail avec amour. Mais peu de gens me font la grâce de s'en apercevoir. Vous êtes bien le gentilhomme que tout le monde décrit. »
« Je fais de mon mieux pour aider les autres, c'est tout. Un humble serviteur du peuple. »
Dalton eut un sourire engageant.
« Que puis-je pour vous, Inger? Y a-t-il au domaine une difficulté que je pourrais aplanir pour vous faciliter le travail ?»
Le boucher approcha encore sa chaise, posa un coude sur le bureau et appuya le menton dessus. Son bras était aussi gros qu'un tonnelet de rhum. Le front plissé, il adopta un ton moins timide et maniéré.
« Voici le problème, messire Campbell. Vous ne le savez sûrement pas, mais je suis très strict avec mes employés, et je ne tolère pas la moindre bêtise. C'est moi qui leur apprends à couper et à préparer la viande, et quand ils ne savent pas compter, je leur donne des cours. Avec moi, les gens qui prennent leur travail à la légère ne font pas long feu. Le secret du commerce, quand on veut prospérer, c'est la satisfaction du client. Ceux qui ne voient pas les choses comme ça se font caresser les côtes, et ils ne tardent pas à prendre la porte. » « On prétend que je suis dur, mais c'est dans ma nature et je ne suis plus en âge de changer. »«
Une attitude qui me paraît raisonnable, Inger. »«
D'un autre côté, je respecte mon personnel. Si on me fait du bien, j'en fais en retour. Ce n'est que justice. »« Je sais comment certains patrons traitent leurs employés, surtout les Haken, mais je ne joue pas de ce jeu-là. Quand on est honnête, je le suis aussi, et c'est normal. »« Dans ces conditions, on devient vite ami avec les gens qui vivent et travaillent près de soi. » Vous voyez ce que je veux dire? Au fil des ans, ils sont comme une seconde famille. On s'en soucie et c'est logique si on a un cœur dans la poitrine.
Je comprends, mais... Messire, certains de mes employés sont les enfants des hommes et des femmes qui m'ont aidé à devenir un commerçant respecté.
Inger se pencha davantage en avant.
J'ai deux fils et ce sont de bons garçons. Mais parfois j'ai l'impression de m'occuper moins d'eux que des membres de mon équipe. Dans le lot... Il y a une très jolie jeune Haken nommée Beata.
Une alarme retentit dans la tête de Dalton Campbell, puis il se souvint de la petite rousse que Bertrand et Stein avaient fait monter au deuxième étage pour s'amuser un peu.
« Beata, ce nom ne me dit rien, Inger. »«
C'est normal, messire. Elle n'a de rapport qu'avec les cuisines du palais. Entre autres tâches, elle se charge des livraisons de ma boucherie. » Je me fie à elle comme si elle était ma fille, et elle est très douée pour le calcul. C'est très important parce que les Haken ne savent pas lire et qu'il est donc impossible de leur confier une liste. Beata a une très bonne mémoire. Avec elle, je n'ai pas besoin de superviser le chargement. Elle prend toujours les commandes sans se tromper, et aucun client ne réussirait à l'escroquer.
Je ne vois toujours pas ce que...
Et tout d'un coup, voilà qu'elle ne veut plus venir au domaine.
Dalton remarqua que le boucher serrait les poings.
« Aujourd'hui, nous avions une grosse livraison pour vous, sûrement en vue d'un nouveau banquet. Je lui ai dit d'atteler farfader à la charrette et de s'en charger. Figurez-vous qu'elle a refusé. »
Inger tapa du poing sur le bureau.
« Refusé, ouais, comme je vous le dis. »
Le boucher se radossa à son siège et redressa la bougie éteinte qu'il venait de faire tomber.
« Quand mes employés ne veulent pas travailler, ça me met hors de moi. Mais Beata, eh bien, c'est un peu ma fille, alors... » Bref, Au lieu de lui flanquer une correction, j'ai voulu savoir pourquoi elle réagissait comme ça. Je me disais que c'était peut-être à cause d'un garçon qu'elle n'avait plus envie de voir, ou un truc comme ça. Vous savez, il n'est pas toujours facile de deviner ce qui se passe dans la tête d'une femme. Je l'ai interrogée patiemment, et elle s'entêtait à dire qu'elle ne voulait plus aller au domaine. Bien sûr, cette réponse ne me satisfaisait pas. Mais elle était prête à travailler deux fois plus, et même à parer les volailles pendant la nuit, si j'acceptais de ne plus la faire travailler pour le domaine. J'ai insisté, certain qu'on lui avait fait du mal, sans parvenir à lui tirer les vers du nez. Elle refusait, un point c'est tout. Furieux, je l'ai menacé de la forcer à livrer le palais, qu'elle en ait envie ou non. À ce moment-là, messire, elle a éclaté en sanglots.
Inger serra de nouveau le poing.
Je connais Beata depuis qu'elle suce son pouce. Et je l'ai jamais vue pleurer, même quand elle s'entaillait la main en découpant une pièce de viande. Et croyez-le ou pas, elle ne versait pas une larme lorsque je recousais la plaie. Ouais, messire, je l'ai vue grimacer, mais jamais pleurnicher. À part quand sa mère est morte, mais ça, on peut le comprendre. Et aujourd'hui, à l'idée de venir ici, elle sanglotait comme une fillette. Du coup, j'ai décidé de m'occuper de la livraison. Messire Campbell, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais ça devait être grave pour que Beata craque de cette manière. Jusqu'à aujourd'hui, elle sautait de joie à l'idée de venir chez vous. Je l'ai toujours entendu dire du bien du ministre, qui se dévoue tellement pour Anderit. En réalité, elle était fière de livrer le palais. Mais c'est fini. Et la connaissant, je suppose que quelqu'un a pris son plaisir avec elle contre sa volonté. N'oubliez pas, messire, que je la considère comme ma fille.
Pourtant, c'est une Haken, rappela froidement Dalton.
C'est vrai,
lâcha Inger sans cesser de soutenir le regard de l'assistant.
Monsieur Campbell, je veux qu'on me livre le jeune salaud qui a violenté Beata, histoire de le pendre à un croc de boucher. Ou de les pendre, s'ils sont plusieurs, ce que je crois. Pour venir à bout de cette petite, il a dû falloir plus d'un seul homme. Messire, je sais que vous êtes très occupé, surtout depuis le meurtre de Dame Winthrop. Que le Créateur ait pitié de son âme. Mais si vous consentiez à enquêter sur cette affaire, je vous en serais très reconnaissant, parce que je n'ai pas l'intention de rester là.
Dalton se pencha en avant et posa les mains sur le bureau.
Inger, sachez que je ne tolérerai pas que de telles infamies se produisent au domaine. Pour moi, c'est une affaire de la première importance. Le ministre de la Civilisation est au service du peuple d'Anderit. Si un ou des hommes ont abusé de Beata, ils le paieront cher.
Oubliez le si, messire. Je suis sûr que la pauvre petite a été violée.
Et je vous crois. Inger, je m'occuperai de cette affaire. Parce que aucune personne, qu'elle soit andérienne ou akène, ne doit subir de mauvais traitements au domaine. Ici, tout le monde est en sécurité. Et les coupables, quelle que soit leur race, n'échapperont pas à la justice. Soyez-en assurés. Cela dit, vous comprendrez que l'assassinat d'une femme importante et le danger qui menace d'autres femmes, y compris les Haken, soient ma priorité. La ville ne parle que de ça, et nos citoyens attendent que justice soit faite.
Inger inclina la tête.
Je saisis votre point de vue, messire. Avoir votre parole que l'affaire sera résolue me suffit pour l'instant. L'essentiel, c'est que ces jeunes violeurs me tombent un jour sous la main.
Le boucher se leva.
« Idem s'ils ne sont pas si jeunes que ça !»
Campbell se leva aussi.
« Jeunes ou vieux, nous les démasquerons, je vous le promets sur mon honneur. »
Inger tendit la main et l'assistant la serra.
Le boucher avait une sacrée poigne. « Je suis heureux de m'être adressé à l'homme de la situation, messire Campbell. »«
Mon ami, vous n'auriez pas pu mieux choisir. »« Oui ?»
lança Dalton quand on frappa à sa porte. Devinant l'identité de son visiteur, il continua à rédiger des ordres au sujet des gardes supplémentaires qu'il voulait faire affecter au domaine. Ces hommes n'avaient pas de lien avec l'armée et c'étaient tous des Andériens. Pour la protection du palais, ils ne se seraient pas fiés à des soldats réguliers.
« Messire Campbell ? Approche, Fitch !»
dit Dalton en relevant les yeux de son écritoire. Le jeune Haken avança et se mit au garde-à-vous devant le bureau. Depuis qu'il portait un uniforme et qu'il s'était occupé du cas Claudine Winthrop, l'ancien garçon de cuisine se tenait beaucoup plus droit. Ayant écouté le rapport détaillé de quelques autres membres de l'équipe spéciale, Dalton se réjouissait que Fitch et son ami Morley aient suivi à la lettre ses instructions. L'assistant posa sa plume sur le bureau.
« Fitch, tu te souviens de notre première conversation ?»
Cette question surprit le jeune Haken.
« Oui, messire, je crois. » « Sur un palier, au deuxième étage ?»«
Oui, messire, je vous suis reconnaissant de... eh bien, de m'avoir traité si gentiment. »«
Parce que je n'ai dit à personne que tu traînais à un endroit où tu n'avais pas à être ?»«
Oui, messire, vous avez été très indulgent. » »«
Ce jour-là, tu m'as dit que le ministre était un homme de bien et que tu détesterais qu'on le calomnie. » »«
Oui, messire, et je le pensais. » »«
Plus tard... » Tu m'as prouvé que ce n'était pas de vaines paroles. Te rappelles-tu ce que je t'ai dit sur ce palier?
Au sujet du nom d'honneur que je pourrais obtenir, messire?
Exactement. Et c'est toujours vrai si tu ne me déçois pas.
Dalton marqua une courte pause.
Dis-moi, tu te souviens de ce qui s'est passé sur ce palier avant notre rencontre?
L'assistant était sûr que Fitch n'avait rien oublié. Un événement pareil ne s'effaçait pas facilement d'une mémoire. Fitch chercha désespérément une façon d'exprimer les choses sans utiliser de mots trop précis.
« Eh bien, messire, il y avait... »«
Fitch, tu te souviens de la fille qui t'a giflé ?»«
Oui, messire. »«
Tu la connais, mon garçon ?»«
Elle s'appelle Beata et elle travaille pour Inger le boucher. Elle appartient à mon groupe de repentance. »
« Tu as compris ce qu'elle faisait là-haut, n'est-ce pas ? Le ministre et Stein t'ont vu. Bien entendu, tu t'es aperçu qu'elle était avec eux. »«
Ce n'était pas la faute du ministre, messire. Beata a eu ce qu'elle cherchait, rien de plus. Elle n'arrêtait pas de dire que messire Schönbourg était un homme fantastique et de s'extasier sur sa beauté. Si vous l'aviez entendu soupirer chaque fois qu'elle parlait de lui, je la connais, je peux vous dire qu'elle n'est pas à plaindre. »
Dalton eut un petit sourire énigmatique. « Tu l'aimes bien, pas vrai, Fitch ?»«
À vrai dire, je n'en sais trop rien. Il est difficile d'aimer quelqu'un qui vous déteste. Au bout d'un moment, ça devient lassant. »
Dalton reconnut en Fitch un amoureux éconduit. Ça se lisait sur son visage, malgré tous ses efforts pour le cacher.
« Voilà toute l'affaire, mon garçon. Cette fille risque d'avoir envie de nous faire des ennuis. Les femmes réagissent parfois comme ça, après avoir obtenu ce qu'elles veulent. » Un jour ou l'autre, tu paieras pour la prendre. Ne cède pas trop facilement à leurs désirs, sinon elles se débrouilleront pour faire croire que tu les as forcées.
Je ne savais pas qu'elles étaient comme ça, messire, dit Fitch, éberlué. Merci du conseil.
Comme tu l'as si bien dit, elle a eu ce qu'elle cherchait. Et personne ne l'a brutalisée. À présent, elle semble s'être ravisée et vouloir crier au viol. Comme Claudine Winthrop. Et sans doute pour les mêmes raisons, obtenir quelque chose en échange de son silence.
Messire Campbell, je suis sûr que Beata...
Inger est venue me voir il y a moins d'une heure.
Elle lui en a parlé?
Non. Pour le moment, elle s'est contentée de refuser d'aller livrer de la viande au domaine. Mais le boucher n'est pas idiot, et il se doute de ce qui s'est passé. Cet imbécile réclame justice. S'il force Beata à désigner un coupable... Le ministre pourrait être l'objet d'accusations mensongères.
Dalton se leva.
Tu as été l'ami de cette fille, et il sera peut-être nécessaire de s'occuper d'elle, comme tu as si bien pu le faire avec Claudine Winthrop. Beata te connaît, et elle ne se méfiera pas de toi.
Fitch blêmit et sentit ses genoux trembler.
Messire Campbell, «
Quoi donc, Fitch? Porter un nom d'honneur ne t'intéresse plus? Tu veux démissionner de mon équipe de messagers? Et rendre à l'intendance ton nouvel uniforme?
Bien sûr que non, messire.
Alors, où est le problème?
Nulle part, messire. Beata a eu ce qu'elle méritait et il serait injuste qu'elle accuse le ministre d'un acte dont il n'est pas coupable.
Exactement comme Claudine. C'est bien ce que je disais.
Et vous aviez raison.
Dalton se rassit.
Je suis ravi que nous nous comprenions. Si elle devient menaçante, je te ferai signe. Avec un peu de chance, ce ne sera pas nécessaire. Qui sait, elle renoncera peut-être à son méchant projet.
Surtout si quelqu'un lui met un peu de plomb dans la cervelle avant qu'il soit indispensable de protéger le ministre. Le mieux serait qu'elle renonce à la boucherie pour aller travailler dans une ferme très loin d'ici. »
Dalton ramassa sa plume et en mordilla pensivement le bout tandis qu'il regardait Fitch sortir et refermer derrière lui. Comment le garçon allait-il se sortir de cette situation?
S'il échouait, Rollet se chargerait de la fille et on n'en parlerait plus.
Mais s'il réussissait, toutes les pièces d'un puzzle compliqué s'emboîteraient à la perfection.
Et une certaine toile d'araignée s'étendrait encore un peu plus.